émission 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas bien sûr de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club landais de rugby, l'Union sportive d'Acquoise. Aujourd'hui, le club du sud des Landes évolue en nationale, une troisième division fréquentée par Albi, Tarbes, Narbonne, Nice, Bourgoin-Jallieu, Valence-Romand, Bourg-en-Bresse, Suresnes, Blagnac, hier Chambéry, Cognac et Rennes. Nostalgie. Autant évacuer les cinq finales perdues entre 1956 et 1973, principalement celle de 1963, face à son meilleur ennemi, le Stade Montois, assurant au cul rouge, surnom du club d'Acquoise aux couleurs rouge et blanche, le surnom de maudit de Brennus. Retour en arrière. En 1956, le grand Lourdes de l'époque, emmené par son capitaine Jean Prat, pourtant privé de leur maître à jouer Roger Martine, impose un jeu froid, méthodique, presque inexorable, face à une jeune équipe amenée par son capitaine Paul Lassaoussa. Mais le score est sans appel, 20-0. C'est à l'époque le plus grand écart de points enregistré en finale du championnat de France depuis 1913. En 1961, à Lyon, les Dacquois furent battus par une AS bistéroise impitoyable, aussi de réalisme, et portée par l'audace prodigieuse de son demi-de-mêlée, capitaine Pierre Danos. À quelques minutes de la fin, Danos, dans un angle impossible, depuis le bord de la ligne de touche, tente un drop victorieux. Le score, 6-3 pour Béziers. Le 2 juin 1963, à Bordeaux, défaite contre le voisin Montois qui l'emporte 9-6. Une finale encore gravée dans les mémoires landaises. C'était des gloires landaises et nationales qui allaient s'affronter dans un duel passionnant. Les frères Boniface, André et Guy pour Mont-de-Marsan, contre les frères Albaladejo, Pierre et Raymond pour Dax. Ce fut une passion, 40 km séparent les deux villes des Landes. Mais aujourd'hui, un traumatisme pour Dax. 1970-66, stade municipal de Toulouse et nouvelle défaite face à Agen, 9-8. Une finale au couteau, une finale violente, occasionnant de nombreuses blessures et débouchant sur de longues suspensions de jeu. L'arbitre, M. Mandelman, expulse le talonneur d'Acquoise Jean Béraud et le pilier agenais Marius Lajeski. À l'issue de la partie, ces deux-là, ainsi que le pilier landais Christian Lasserre, seront suspendus sine die par la Fédération française de rugby, sanction levée un an plus tard sur une amnistie fédérale. C'est la dernière saison de Pierre Albaladejo, marquée en 1965 par la disparition de son frère Raymond, mais aussi de Jean Autas et Émile Carrère dans un accident de la route. En 1973, à Toulouse, Dax a encore laissé passer sa chance. Il s'incline une cinquième fois. Tarbes l'emporte de 18-12. Pourtant, Dax était grandissime favori suite à sa victoire en demi-finale contre le Grand Béziers 22-3. Tarbes saisit Dax à la gorge. À la pause, Tarbes vire avec 6 longueurs d'avance, 15 après un deuxième essai tarbé. Le réveil d'Acquoise était trop tardif. Dommage. L'entraîneur d'Acquoise, Jean Desclos, aura commis une grosse erreur. Casser la routine de son équipe dans la préparation de l'événement, additionnant les entraînements, certains diront. Toto Desclos nous a mis une pression terrible. On faisait des mêlées tous les soirs entre 17h30 et 19h30 devant plus de 1000 spectateurs. Trop, c'est trop. Pour se consoler en partie, Dax a glané 5 challenges Yves Dumanoir en 7 finales, 1957, 1959, 1969, 1971, 1982. En 1993 et 1996, Dax s'incline par deux fois en demi-finale face à Toulouse, comptant dans ses rangs de nombreux éléments de l'équipe junior sacrée champion de France la saison précédente, Richard Dourt, Rafali Bagnès, Olivier Mann. Ces deux résultats marquent la meilleure performance du club depuis la finale de 1973. Quelques décennies plus tard, hors une saison 2006-2007 en top 14 se soldant par une relégation, Dax est donc rentré dans le rang, incapable de rivaliser avec les grandes métropoles, sauf à avoir, et ce n'est pas leur cas, un énorme sponsor. Après une dizaine d'années en Pro D2, c'est maintenant la nationale. Et l'objectif est de remonter au plus vite en Pro D2. Le joueur emblématique de Dax est Pierre Albaladejo. Pierre Albaladejo est né le 14 décembre 1933 à Dax, dans une famille d'origine modeste, d'un père employé d'une compagnie d'électricité dont la famille est originaire d'Andalousie et d'une mère basque. Il a grandi avec ses trois frères dans un quartier de l'autre côté de l'Adour, le Sablard. À 14 ans, il est apprenti dans une imprimerie d'Acquaz. Il compte 30 sélections en équipe de France. Entre 1954 et 1964, il a inscrit 104 points. On l'a surnommé Monsieur Drop. Il est devenu premier consultant sportif à la radio en 1968. Il est devenu aussi, en janvier 1975, consultant sportif sur Antenne 2, aux côtés de Roger Couder. C'est aussi un passionné de tauromachie. Continuons notre galerie de portraits. Claude Dourte est né le 20 novembre 1948 à Magest, près de Dax. Reçu pour intégrer l'école normale, il intègre celle d'Agen à défaut de place disponible à celle de Dax. Et on doit à la directrice de l'école normale d'Agen, opposée à la pratique du rugby et ne voulant pas autoriser Claude Dourte à le pratiquer dans un club civil, de n'avoir pas été recruté par Agen. Il compte 30 sélections en équipe de France entre 1966 et 1975. C'est le plus jeune sélectionné chez les Bleus, à 18 ans et 7 jours. Il a souvent été associé à Dax à Jean-Pierre Lux, et en équipe de France avec Joe Mazot, Jean Triot et Jean Gachassin. Il est du Grand Chelem de 1968. Il a poursuivi une carrière de dirigeant à la Fédération française de rugby dirigée par Albert Ferras. Il est le père de Richard Dourte, 31 sélections en équipe de France. Jean-Pierre Lux est né le 9 janvier 1946 à Dax. Il a été formé à Tyros. C'est un chirurgien dentiste. Il compte 47 sélections à l'équipe de France. De 1999 à 2014, il aura présidé l'organisme qui gère la Coupe d'Europe de rugby des clubs. Il est décédé en 2020, à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie. Jean-Pierre Bastiat est né le 11 avril 1949 à Pouillon, dans le sud des Landes. De par sa grande taille, 1m98, il a débuté par le basketball. Il compte 32 sélections à l'équipe de France, dont 14 comme capitaine. Avec son essai contre l'Irlande en 1977, il offre à la France son deuxième grand chelem. Immense troisième ligne centre, numéro 8, au gabarit impressionnant pour l'époque, 2 m, 110 kg, mais d'une étonnante mobilité, capable de passer des pénalités de 50 mètres, une sorte de John Hill landais, en référence au joueur australien. Buteur et deuxième ligne, vainqueur des Coupes du Monde 1991 et 1999. Assureur, Bastiat était aussi engagé en politique aux élections européennes de 1989 sur la liste Chasse, Pêche, Nature et Tradition, et aussi dans la conquête de la mairie de Dax. Il est décédé en 2021, à l'âge de 71 ans. S'étire ensuite une liste non exhaustive de joueurs qui ont marqué l'histoire du club rouge et blanc. Raphaël Ibanez, 98 sélections en équipe de France. Olivier Roumat, 62 sélections. Laurent Rodriguez, 56 sélections. Sans oublier Olivier Magne, Thierry Lacroix, Jean-Patrick Lescarboura. Le talonneur Raphaël Ibanez et le deuxième ligne Fabien Pelousse sont deux anciens d'Acquaz capitaines du 15 de France, soit à eux deux 216 caps. Ibanez, parce qu'il est né à Sognac et Cambran, à côté de Dax, et que son père était de la finale de 1973, aussi talonneur, mais également buteur. Pelousse, car Dax est pour lui une terre d'adoption qu'il a propulsée sur le devant de la scène nationale. Le club a été créé en 1904, sur le champ de Cuyès, et évolue à l'époque en rouge et noir. L'époque est à la moustache, au maillot avec col à trois boutons, un short retenu par une ceinture, voire des gants. Les chefs de file et futurs internationaux ont pour nom Maurice Boyau, Alfred Guichemer et Maurice Birabent. Le parc municipal des sports est inauguré en 1958. Au début des années 2000, il est rebaptisé Stade Maurice Boyau, du nom de l'international troisième ligne de l'USD de 1907 à 1909, décédé lors de la Grande Guerre en 1918. C'était un as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. En 1931, Dax, l'USD, quitte l'organisation de la Fédération française de rugby pour rejoindre l'Union française de rugby amateur, regroupement de clubs dissidents. On joue au rugby à 13, à Dax, jusqu'en 1936. Dax est une ville de 21 000 habitants et l'aire urbaine compte 50 000 habitants. Elle est réputée depuis la plus haute antiquité pour ses eaux chaudes. La domination des rois d'Angleterre, appelés rois ducs, parce qu'ils demeuraient vassaux des rois de France pour leur possession en France, devait durer jusqu'en 1453, la fin de la guerre de Cent Ans. Dax fut prise une première fois aux Anglais par Charles VII et le dauphin, le futur Louis XI, en 1442. Révoltée et s'étant donnée aux Anglais presque aussitôt après le départ des Français, elle fut de nouveau reconquise définitivement par les Français lors d'un second siège le 8 juillet 1451, date à laquelle le comte de Foix en prend possession au nom de Charles VII. Par ses lettres patentes, Louis XI, après son sacre en 1461, ainsi qu'à la suite de la mort du duc de Guyenne, son frère, en 1472, confirme les privilèges de la ville d'Aix, D'A-C-Q-S, comme on l'écrivait à l'époque. Après les Anglais, ce sont les Espagnols qui sont attirés par Dax. En effet, par suite de la menace imminente d'une armée espagnole, Dax est mise en état de siège en 1521-1522, mais résiste à l'invasion. Les guerres de religion, les épidémies et une grande pauvreté marquent le XVIe siècle. Vincent de Paul, né en 1581 à Dax, est une figure du renouveau spirituel du catholicisme français du XVIIe siècle. Prêtre et fondateur de congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale. Il est mort en 1660 à Paris et a été canonisé en 1737. Le cardinal Mazarin séjourne à Dax en 1659. Cette même année, plusieurs princes et princesses se déplacent dans la cité des Eaux Chaudes. Louis XIV, aux côtés duquel la ville s'était rangée durant la Fronde, s'arrêta ainsi à Dax en allant au-devant de sa fiancée, l'infante Marie-Thérèse, qu'il allait épouser à Saint-Jean-de-Luz. Pendant la période qui précède la Révolution française, se révèle une soif de connaissance qui passionne l'élite landaise. C'est dans cette ambiance intellectuelle que naît à Dax en 1733 Jean-Charles de Borda, qui inventa le maître avec une maison du côté de la rue de Borda. Il fut navigateur, mathématicien et physicien de renommée mondiale. Et il étonne par sa conception de la géométrie. Et à 23 ans, il entre déjà à l'Académie des sciences. Jean-Charles de Borda meurt en 1799. Le département des Landes est créé en rassemblant une grande partie de l'ancienne province de la Gascogne et en excluant étrangement la commune de Bayonne, rattachée aux Basses-Pyrénées. Le choix du siège de l'Assemblée départementale se porte en 1790 sur Mont-de-Marsan, alors modeste bourgade de l'est du département nouvellement créé, et Dax devint un chef-lieu d'arrondissement. Napoléon Bonaparte pensa un instant transférer le siège de la préfecture de Mont-de-Marsan à Dax, mais la proximité de cette dernière avec l'Espagne le fit renoncer. Le thermalisme reprit de l'importance dès le XIXe siècle, et notamment à partir du Second Empire. La construction de la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux-Dax-Irun convertit la sous-préfecture des Landes en nœud ferroviaire. Dans la tradition gasconne des festivités, les fêtes de Dax, désignées depuis des années 2000 sous le slogan « Dax la Feria », sont organisées généralement entre la deuxième et troisième semaine d'août et attirent en moyenne 800 000 personnes. Elles sont ainsi organisées pendant 5 jours, autour d'une grande feria taurine avec 4 ou 5 corridas, ainsi qu'un concours de course landaise. Dax s'enflamme aussi également pour un festival Toro y Salsa, un festival mêlant musique salsa et corrida durant 3 jours au milieu du mois de septembre. Ici, dans ces terres traversées par la Dour, rugby, course landaise et tauromachie font bon ménage.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.